Alors, on va commencer Bezrat Hashem, le chapitre 51. Dans le chapitre 51, on va revenir sur une idée qu'on a expliquée dans les chapitres intermédiaires du Tanya, dans les chapitres 34, 35, 36, là on est, pour rappel, on est déjà au chapitre 51, dans lequel on a expliqué la notion de la'asoto. La'asoto, en hébreu, ça veut dire pour le faire. Rappelons-nous le verset qui dit Ki karov elecha adavar me'od, car la chose est extrêmement accessible pour toi. Beficha, dans ta bouche, donc dans ta parole, ou bilvafra, dans ton cœur, donc dans ta pensée. La soto, pour l'action. On a expliqué longuement, pendant plusieurs chapitres, que le but du travail d'un juif, c'est quoi? C'est justement, bonsoir, c'est le la soto, c'est l'action. Et c'est l'objet du cours de ce soir. On va essayer de comprendre pourquoi, avec tout ce qu'on a expliqué, in fine, à la fin, le plus important, Chazak, le plus important, c'est quoi? La question qu'on va te poser, c'est pas qu'est-ce que tu voulais faire, c'est qu'est-ce que tu as fait, concrètement, là, à ce temps. Alors, pour ça, l'Admor HaZaken, dans chapitre 35, avait amené une idée qui avait été expliquée dans le Zohar, dans laquelle on avait expliqué qu'un juif, pour avancer, c'est comme une bougie, il a besoin de l'huile et de la mèche. Là-bas, on a expliqué que le corps d'un juif est la mèche. Et l'huile, d'accord, c'est le combustible. C'est quoi le combustible? Le combustible, c'est les bonnes actions, c'est les mitzvot. En d'autres termes, ce que je veux dire par là, pour être plus clair, c'est que parfois, il y a des gens qui vous diront « Moi, je pense que je peux servir Dieu sans forcément faire des mitzvot. » Ça, c'est la question. Il y en a qui vont vous dire moi, je pense que je peux servir Dieu par mon esprit, par la pensée. Par ma parole, genre des bonnes paroles, je vais être sociable, je vais être ci, je vais être ça, mais bon, tu vas mettre les tefillines, ça ne m'intéresse pas. Faire Shabbat, ça ne m'intéresse pas. Est-on obligé de passer par l'action? C'est une bonne question, c'est une question qui n'est pas anodine, c'est une question qui est très forte. Pour ça, le Zohar répond, il dit que c'est exactement comme si une personne avait une bougie, dans laquelle il dirait, j'ai la mèche, d'accord, j'ai la bougie, j'ai pas de combustible, j'ai pas besoin de combustible. Qu'est-ce qui se passe si tu allumes une mèche sans combustible? Qu'est-ce qui va se passer? La mèche, elle brûle.
Consommer, c'est fini.
Donc ça marche pas. Tu as besoin d'un combustible. Quel est le combustible d'un juif? Le combustible de l'âme d'un juif, c'est les mitzvot. D'accord. Alors, ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant dans ce chapitre, dans le chapitre 51, on va expliquer pourquoi concrètement, on a tellement besoin de l'action. Et pour expliquer ça, j'ai pas fait exprès, mais on va arriver à ça. On va faire un rapport avec le Beth Amikdash. Parce que si on réfléchit bien, dans le Beth Amikdash, on a le même problème. Dieu demande de lui créer une résidence. Nous, on s'attend à ce que dans la résidence de Dieu, c'est le plus abstrait possible, etc. Concrètement, c'est une résidence qui est purement matérielle. Non,
c'est matériel.
De l'or, de l'argent, des animaux qui brûlent, etc. Tout est matériel. Donc on revient à la même question. C'est pas une demeure que Léavdil, un prince saoudien, a fait pour lui. Que là, je lui dis, bon, il veut acheter une Ferrari, il en achète 10.
Ça ressemble à
d'accord
ça.
Mais là, c'est un peu bizarre. On te dit, c'est Dieu qui construit cette demeure. Et c'est même pas les êtres humains qui ont dit, bon, on va imaginer comment nous, on aurait construit une demeure pour Dieu. C'est Dieu qui dit, vous allez me construire une demeure, voilà comment vous allez me la construire. Et vas-y l'or, et vas-y l'argent, et vas-y ci, et vas-y ça. Pourquoi? Donc vous voyez que Dieu lui-même, lorsqu'il nous parle de construction, Dieu nous parle de construction matérielle. Donc pourquoi? La question qu'on se pose, c'est pourquoi, dans toute relation qu'on a avec Dieu, le combustible, ça reste toujours le matériel, l'action matérielle, le retour vers le matériel. Alors on va expliquer. Et iné. Donc là, c'est à la page 384. Et iné, le tosefet biyur, la shana yinika ayunuka dele'el. Pour mieux expliquer les termes du Yenouka. Donc le Yenouka, c'est le texte du Zohar qu'on a cité dans le chapitre 35, que je vous citais tout à l'heure, qui compare le corps, etc., à une mèche, et le combustible, ce sont les mitzvot. Tsarich le vertri, là, pour comprendre, ça, il faut expliquer d'abord. Les havin ktsat inyan ashra tashrina. D'abord, essayez de comprendre, de manière à ce que l'on puisse comprendre un petit peu, la notion de shrina, Shaita Shora Bevet Kochi Akodashim, qui résidait dans le Saint des Saints. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais concrètement, on a confiné la Shrina dans un lieu défini. Il dit, tu veux la Shrina, tu vas à Jérusalem. Dans Jérusalem même, le mont du Temple. Dans le mont du Temple, Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, le Saint des Saints. C'est là-bas que ça se passe. A priori, il y a une question. Pourquoi tu me confines Dieu à un endroit défini? Et là, on est pendant les trois semaines, on pleure, un Beth Amikdash, etc. Finalement, pourquoi a-t-on tellement besoin du Beth Amikdash? Et s'il n'y avait pas besoin de Beth Amikdash? Si je pouvais être un bon juif, en France, ou même en Israël, sans Beth Amikdash. Aujourd'hui, on est dans un... Ben oui, aujourd'hui on est dans un pays, d'accord, Baruch HaShem, on est globalement en sécurité, j'espère, ma chère n'est pas là, ça on nous le rappelle, mais voilà. Imaginez qu'on avait un pays dans lequel il n'y a pas de problème, t'as pas de problème avec les voisins, tout va bien, t'as la sécurité, t'as la Torah, t'as l'armée, t'as tout ce qu'il faut, il n'y a pas de Beth Amikdash. Est-ce qu'il nous manquerait quelque chose? On est en train de pleurer pendant trois semaines pour qu'il nous manque quelque chose. Il te manque quoi finalement? Je m'excuse de poser la question de manière crue, mais finalement c'est la question qu'il pose ici. Je vais expliquer pourquoi la question n'est pas si simple. Pourquoi tu le réclames? Attends, je vais expliquer pourquoi c'est un problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu est présent partout dans le monde? Dieu n'est pas plus présent à Jérusalem qu'à Paris.
Non.
On est d'accord? Avec 51 chapitres du Tania, je pense qu'on est arrivé à cette conclusion que Dieu n'est pas plus présent à Jérusalem qu'à Paris.
Mais il a un œil plus.
Non, il est présent partout.
C'est pareil.
Dieu sait Paris, Dieu sait Jérusalem.
C'est pareil.
C'est pareil, d'accord?
Ouais,
alors pourquoi?
Il est présent même dans les grottes.
Partout il est présent. Alors si Dieu est présent partout, pourquoi j'ai besoin de le confiner à un endroit et une fois que cet endroit est détruit, je dis je veux qu'il soit reconstruit cet endroit?
Non mais surtout, dans une paracha, on nous a dit que Akadosh Baruch Hu, il nous demande de faire de nous un Beth Amikdash.
Oui, en plus.
Alors pourquoi on a besoin d'avoir un Beth
Amikdash? Exactement. Bon, ça on peut comprendre qu'il y a Beth Amikdash dans le cœur.
Alors il y avait dit il y a deux ou trois cours que... Il fallait, on était à cheval dans une, il fallait faire attention de pas faire comme il avait fait l'autre machin. Et qu'on avait besoin, dans notre nature, on avait besoin d'une représentation quelque part.
Je comprends. Mais concrètement, pourquoi confiner Dieu dans un endroit spécifique? Pourquoi dire Dieu se trouve dans le temple à Jérusalem? Alors qu'en vérité, c'est faux. Dieu se trouve partout.
Parce que c'est notre conscience qui est faite.
Alors on va expliquer, on va donner une réponse. Merci.
Pourquoi il a centralisé donc
Moi j'ai une idée.
Une résidence. Un roi peut avoir des résidences dans différents endroits.
Je comprends, mais attendez, Dieu, sa résidence est partout, dans le monde entier.
Non, mais sauf qu'il a vraiment mis.
Mais vous êtes d'accord avec moi que Dieu n'est pas plus présent à Jérusalem qu'il est présent à Paris?
Oui, ça j'ai bien compris.
Peut-être qu'à Jérusalem, on le sent plus, parce qu'elle a décidé comme ça. Pourquoi elle a décidé ça comme ça?
C'est ça.
Et si, imaginez maintenant, je répète ma question, imaginez que Mashiach venait sans reconstruire Beth Amikdash. Qu'est-ce qui nous manquerait finalement?
La présence d'Akadosh
Baruch Hu. Et le pourquoi matériel en
pourquoi la présence d'Hachem dépend d'une bâtisse en pierre dans laquelle on va brûler des sacrifices? Et s'il n'y avait pas le Beth Amikdash?
Cette bâtisse-là, elle est limitée.
Quand on a une bonne question, on a intérêt à avoir une bonne réponse.
Ouais. Voilà. On écoute.
Enfin, il faut réfléchir un petit peu. Ah oui. Bah, au Khatadana, il nous remboursera une mise en œuvre.
Amen.
Razak David.
Il y a tout ça, hein. Il y a la seule histoire de.
De quoi,
que? De la représentation, hein.
Depuis le début, tu résides comme ça.
Grande question.
Depuis le début, il a résidé.
Grande question.
Il a demandé à construire un.
Je vais le répéter, monsieur.
J'ai lu la fin.
Il y a quelque chose.
Je connais la réponse.
Hein, depuis le début, on a fait un Mishkan.
J'ai lu la fin.
Après, il nous a fait
c'est que le Beit HaMikdash, il est limité. Et nous, ce qu'on veut, c'est.
Un autre qui va venir. Ah non.
Pourquoi on doit limiter Dieu?
C'est élever le matériel.
C'est le début d'une représentativité de Dieu, on va dire, en un premier temps, pour essayer de nous accrocher.
On va voir. Je n'en dis pas plus, on va voir. Un peu de force. Ok. Donc je reprends. Tsarich levaer trila. Il faut d'abord expliquer. Le havin tzad pour essayer de comprendre. Inyan ashrat ashrina shaita shora bevet amigdash. Bevet kodesh kodashim. Je suis au milieu de la page 384. Il faut d'abord comprendre pourquoi la shrina résidait dans un lieu spécifique. Vechen pareil. Kol makom ashrat ashrina. Partout où on nous dit dans la Torah que la Shrina réside, Par exemple, on dit 10 juifs qui sont réunis, la Shrina réside parmi eux. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Allô, melo kolaretz gvodo. Toute la terre est emplie de l'honneur de Dieu. Velek atar panuimine. Et aucun lieu n'est vide de Dieu. Donc, que je sois seul, ou avec 10 personnes, ou avec 100 personnes à Jérusalem dans le Saint des Saints, finalement, Dieu est présent partout. Alors, ça change quoi? La réponse. Ah, Haïnian. Seulement, l'explication est la suivante. Pour répondre à ça, il faut d'abord utiliser une allégorie. Qui dirent-ils, comme il est écrit dans Job, Mipsari et Chese Loka. Dans Job, il est écrit que de ma chair, je verrai le divin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme de façon à ce que, lorsque l'homme observe son corps et le fonctionnement de son corps, il peut arriver à comprendre certaines choses du divin. Pourquoi? Parce que Dieu a eu la gentillesse de nous créer à son image. Comme il nous a créé à son image, en analysant certaines parties de notre fonctionnement, on arrive à comprendre le fonctionnement divin d'une certaine façon.
C'est ça, à son image.
À son image. Alors on va expliquer. Regarde. Kemo she nishmat Adam. On va parler de la neshama. Où se trouve votre neshama dans votre corps?
Dans le sang.
Attendez, réfléchissez.
Dans le moa.
Où se trouve votre neshama?
Partout.
Elle est partout.
Partout dans.
S'il y avait ne serait-ce qu'un seul endroit de votre corps qui n'était pas.
Le sang qui véhicule.
Le sang, c'est. Ça véhicule par ça, mais c'est dans tous les membres. Si ma main bouge, c'est qu'il y a l'énergie de ma neshama qui est dans ma main. Donc, où se trouve l'énergie de Maneshama? Partout. Et pourtant. Kmo, shinishmat Adam, de la même façon que l'âme de l'homme, imemalakol remach, evare aguf, me rocho, vadraglam. La Neshama de l'homme emplit tous les 248 membres de l'homme, de la tête aux pieds. Ça veut dire des membres les plus élevés aux membres les plus inférieurs. Et à Falpiken est quand même, ikar mishkana, et pourtant, ikar mishkana, l'essentiel de son trône, de son siège, de l'âme, se trouve où? Le quartier général de la Neshama se trouve dans la tête. Donc là, vous voyez, on a un paradoxe. D'un côté, ouais, il a donné la réponse, c'est vrai. D'un côté, la Neshama se trouve dans la tête. D'un autre côté, elle est partout. Comment ça marche? C'est pas la même chose. C'est pas parce qu'elle réside partout, ça n'empêche pas qu'il y ait un quartier général. Elle peut être présente partout, mais il y a un quartier général.
Alors ça veut dire qu'elle rayonne, elle réside pas.
Elle réside partout, elle est partout. Ma neshama est dans ma main, sinon ma main arrêterait de bouger. Seulement, elle a un quartier général, on va expliquer. Ve'afal pikel quand même, ikar mishkana ibemocho, ve'ashrat ibemocho, ou me'amoach mitpashetet lechol ha'evarim. Et de l'intellect, elle va se dispatcher à tous les membres.
Forcément.
D'accord?
Et
donc, selon, je vous donne un commentaire du rabbi, le rabbi il dit que ça veut dire quoi? Qu'elle va se répandre dans tous les membres. C'est-à-dire qu'elle va se répondre de façon égale. C'est-à-dire qu'après, la neshama n'est pas plus présente dans mon cœur que dans mon doigt de pied. Elle est présente partout. Mais pourtant, elle a un quartier général. Alors ça, c'est un paradoxe intéressant qui va nous aider un peu à comprendre comment ça se fait que d'un côté, on nous dit que Dieu est présent partout dans le monde, et d'un autre côté, on nous dit que Dieu a des quartiers généraux.
Ben c'est comme, moi je donnerais l'image que... Il y a un pays qui est en état de guerre, il y a des militaires partout, il y a un major qui est ailleurs.
Non mais là c'est différent. Là on te parle, là c'est plus fort. Là on te parle d'un général qui est dans le QG et qui est en même temps partout.
Non, moi je parle... Ah oui d'accord.
C'est plus fort. Il est là ou il est là? Et c'est pour ça que le seul exemple qu'on a trouvé, c'est la Neshama. Parce que d'un côté la Neshama elle a un quartier général qui est là, et d'un autre côté elle est partout.
Ça veut dire qu'il rentre par la tête et après il se répand partout.
Non, c'est pas exactement ça. Ça veut dire que ce qu'il m'a expliqué, ça veut dire qu'il y a un quartier général et concrètement son aura, et elle va résider partout, mais elle a quand même un quartier général.
Bon, d'accord.
Bon, de la même façon que la tête, elle.
Oui, ça veut dire qu'on peut comprendre que quelque chose a une influence partout, mais qu'il a un quartier général, un endroit où il se trouve. On va expliquer encore. Vechol ever mekabel mimena. Chaque membre reçoit, donc je suis en bas de la page 385, chaque membre va recevoir de la neshama, de l'énergie, une vitalité et une faculté qui correspond à sa structure, à sa nature. C'est-à-dire, par exemple, la main, elle va avoir besoin de recevoir une énergie qui va être là pour l'aider à bouger des choses, ou à sculpter des choses, ou à écrire des choses. Le pied, il va avoir besoin d'autres facultés. Et la neshama s'adapte à chaque chose. C'est pas vraiment qu'elle s'adapte. C'est que dès que chaque membre reçoit la lumière et l'énergie de la neshama, ça donne ce que ça donne. Ok? Donc, a'ayin lirot, l'œil verra avec l'énergie de la neshama. Vea ozen lishmoa, et l'oreille va entendre. Vea pe ledaber, et la bouche va parler. Vea raglaim lahalor, et les pieds vont marcher. Maintenant, est-ce que ça veut dire, et là j'arrive à la question, est-ce que ça veut dire que la neshama marche? Que la neshama voit? Que le neshama entend, que le neshama parle. Faux.
C'est l'énergie qui donne ça.
C'est, le neshama t'envoie une énergie. Après, lorsque l'énergie arrive dans un membre, selon le membre dans lequel le neshama va arriver, on aura différentes expressions.
En tout cas, elle évolue.
D'accord, bien sûr. Est-ce que c'est la vue? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le fait de marcher? Etc. Kanire Berouche. Maintenant, je vais aller plus loin. Chez Bemoach, alors ça c'est Yves a dit ça, un point très juste. Kanire Berouche, comme on le voit clairement. Chez Bemoach, Margish Kol Anifal, Beremach Evarim, Vechol Akorot Otam. On voit clairement que l'intellect, donc le cerveau, d'accord, le cerveau humain, ressent, le cerveau ressent tout ce qui se passe dans les membres. Ça veut dire comme ça. Je ne sais pas comment on explique ça en médecine aujourd'hui, mais je vais expliquer comment on explique la Torah. Imaginez par exemple que avec mon pied, je marche sur des pics.
Ça crée un influx nerveux.
Qu'est-ce qui se passe? D'accord.
Il y a un message.
Exactement. Il y a un message qui monte dans mon cerveau.
D'abord, c'est le cerveau qui.
D'accord. Et donc le cerveau analyse l'information. Aïe. Et là, je sens aïe. Le aïe, je le sens dans tout le corps après. Quand je le sens dans mon pied, mais je le sens pas dans tout le corps. Mais pourquoi je le sens? Parce qu'il y a une communication directe entre le membre et le cerveau. Et le cerveau, donc le centre nerveux de l'homme,
il dit vaut mieux que tu retires ton pied.
Voilà, a ressenti la douleur et il envoie une information, retire ton pied, règle le problème tout de suite.
Et quand tu ressens plus la sensibilité,
alors quand on ressent plus, il y a deux possibilités. Bien sûr, une perte de sensibilité. Il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est que le membre ne fonctionne plus. Deuxième possibilité, c'est que le membre fonctionne, mais il n'y a plus de relation avec le cerveau. Ça arrive. C'est deux types de maladies, hein. En médecine, on étudie ça. Des fois, le docteur va te dire, monsieur, votre membre fonctionne parfaitement, mais le cerveau n'envoie plus les ordres pour ce membre.
Ceux qui ont du diabète.
Non, mais ceux qui ont.
Ceux qui ont du diabète, on
les tétraplégiques.
Voilà, exactement.
Les tétraplégiques, c'est ça. Et pour ça, ils essayent de les recommander avec des systèmes.
Le membre fonctionne. Alors aujourd'hui, on essaye de simuler avec des machines, etc. On arrive. On arrive de simuler. Pour essayer de simuler les signaux du cerveau.
Il n'y a plus de signal.
Mais le cerveau n'envoie pas de signal. Donc ça veut dire quoi? On voit d'ici le rôle du cerveau. D'un côté, le quartier général de la neshama se trouve dans la tête. Et pourtant, d'un autre côté, ce quartier général influe sur tous les membres. Et chaque membre aura une expression différente selon l'influence selon l'énergie qu'il recevra. Et pas seulement ça. Pas seulement que chaque membre reçoit du cerveau, le cerveau ressent ce qui se passe chez chaque membre. Donc il y a une communication constante. C'est un aller-retour. C'est pas juste que le cerveau il envoie et chacun se sert. C'est pas on aurait dit bon c'est une fontaine, le cerveau il est là, il sert, après chacun il prend, ben il va faire une tomate, l'autre il va faire une banane. Non. Le cerveau il irrigue, mais en même temps, il y a un aller et il y a un retour. Le retour c'est que le cerveau il ressent constamment à chaque seconde ce qui se passe dans le membre. Et pourtant, le quartier général de la neshama reste toujours mémoire dans la tête.
Et ça, c'est pour une personne. Imagine-toi que c'est pour des milliards d'individus.
Bien sûr. Donc c'est un concept qu'on va expliquer ici. Le concept. Alors, de la même façon... D'accord.
C'est Internet, en fait. C'est Facebook.
Ok. Ouais. Donc... Si vous voulez, il y a une très longue note du rabbi ici pour essayer d'expliquer ce que l'Admor HaZaken veut dire ici. Je vais vous expliquer Bekitsour, en résumé, ce qu'il veut dire ici. On fait la différence dans la Chassidout entre deux choses. Entre ce qu'on appelle Chayout, Chayim, la vie.
La vitalité.
Et Koar, l'énergie. J'explique. Par rapport à la vie, est-ce que mon doigt de pied est plus vivant que mon cœur? Non. Par rapport à la vie, chaque membre de mon corps...
Il y en a un qui est moins vital, on va dire.
Non, il est moins vital, mais il n'est pas moins vivant.
Oui.
Il n'est pas bon vivant, parce que vivant, c'est binaire. Ou tu l'es ou tu ne l'es pas. Par contre, lorsque tu parles d'énergie...
C'est de l'informatique. Hein.
D'accord. Lorsque tu parles d'énergie, là, c'est différent. Dans l'énergie, évidemment que l'énergie qu'il y a dans le pied n'est pas la même énergie que l'énergie qui se trouve dans le cerveau. On sait très bien que, si il parle d'informatique, on sait très bien que le cerveau occupe une très grande partie de l'énergie de l'homme. Le cœur aussi, une grosse partie de l'énergie de l'homme. Il y a des membres qui occupent moins d'énergie. Par exemple, vous prenez ici et là, vous avez de l'énergie, certainement qu'il y a de l'énergie. Mais c'est une énergie infime, vous ne la sentez pas. Maintenant, est-ce que ça, c'est moins vivant que mon cerveau? Non. C'est pas moins vivant, mais on va dire c'est moins énergivore. On va appeler ça comme ça. D'accord? C'est tout. Donc, en hébreu, si vous voulez le mot en hébreu, tu as chayut et koar. Chayut, c'est la vie. La vie. Ça, la vie, tout est vivant. C'est vivant. Après, tu as koar, l'énergie. Là, dans l'énergie, tu as les différences. Ce que veut montrer ici l'Admor HaZaken, clairement, c'est que, veut te dire, si tu vois bien ce qu'on est en train de dire ici, concrètement, d'un côté, l'aneshama se trouve partout, d'un autre côté, le quartier général de l'aneshama se trouve dans la tête. Je vais aller plus loin. Veiné. On va tourner la page, on va passer à la page 388. Veiné. En shinui kabbalat akochot
ve'achat. Beaucoup de commentaires, hein.
Oui, il y a beaucoup de commentaires. Veiné. Bon, je vous invite après à revoir ceux qui veulent, parce qu'il y a des commentaires, j'ai pas tout dit dans les commentaires. Veiné. En shinui kabbalat akochot ve'achayut sheba'avera aguf, min aneshama, mitzad atzma umauta. La différence qu'il y a entre chaque membre, et le fait que, par exemple, un membre avec l'énergie de la Neshama, il va voir. L'autre membre avec l'énergie de la Neshama, il va entendre. L'autre membre avec l'énergie de la Neshama, il va marcher. Ça ne provient pas min Neshama mitzad atzma umauta. Sheyeh mauta umatzmuta mitchalek l'ramach halakim shonim. Umiklapshim beramach mekomot kifit siyur halakim mekomot aguf. Là, c'est intéressant ce que tu dis ici. Je reprends l'idée qu'on a dit tout à l'heure. Tu as une Neshama. Vous me suivez, regardez-moi. Tu as une neshama qui irrigue tout le monde. Elle va irriguer 248 membres. Et chacun de ces 248 membres aura une utilisation et une énergie différente. Maintenant, on aurait pu faire l'erreur de penser qu'en vérité, la neshama a 248 canaux. Un canal qui s'appelle le canal de la vue, un canal qui s'appelle le canal de lui, un canal qui s'appelle le canal du toucher, etc., un canal qui s'appelle le canal de l'odorat, et qu'après, j'aurais pu penser que chaque canal de la Neshama va se diriger vers le membre correspondant. J'aurais pu penser comme ça. Te dis l'Admor HaZaken, c'est faux.
Ça va être complet.
La Neshama est un seul etzem. Une seule essence. Indivisible. Seulement, cette essence indivisible, lorsqu'elle est au contact avec un membre, dans chaque membre, retenez bien les détails parce qu'avec ça, on va ramener ça après par rapport au monde. Donc, il y a une essence indivisible, qui est la Neshama, qui se trouve là, qui est indivisible. Et après, cette essence indivisible, elle va se dispatcher partout. Et selon le membre dans lequel elle va se dispatcher, il y aura des réactions différentes dans le membre, bien que l'énergie de base qui est venue était la même. C'était le même Etsem.
C'est une énergie de vie, alors.
Une énergie de vie, mais après, si vous voulez, c'est comme un courant. Courant électrique.
Et après, de l'énergie de vie, elle fait qu'animer simplement le monde.
Eh oui. Mais on va aller plus loin, parce que c'est pas si simple que ça. Là, pour l'instant, on a l'impression qu'il veut nous donner l'exemple, c'est comme une centrale électrique.
C'est ça, c'est un réseau fermé.
Une centrale électrique, elle va t'alimenter quoi? Là, elle va alimenter une lumière. À côté, elle va alimenter une clim. Là, elle va alimenter une baffe. D'accord? Là, elle va alimenter une télé.
L'énergie, c'est la même.
Etc. Maintenant, l'énergie, c'est la même. Ouais. C'est du courant. Alors celui qui connaît pas l'électricité va dire, ah, je comprends. Il y a une centrale dans laquelle il y a les énergies dédiées. Si tu veux allumer la lumière, appuie sur ce bouton et l'énergie lumière qui vient. Si tu appuies sur ce bouton et l'énergie télé qui vient. Si tu appuies sur ce bouton et l'énergie clim qui vient. C'est faux. Voilà. Il y a une énergie qui vient. Et après, ce qui va faire la différence entre le résultat et l'expression de l'énergie, ça va être le corps qui va récupérer l'énergie. Qu'est-ce qu'il en fait?
Ce n'est pas comparable au cerveau.
D'accord?
Ce qui n'est pas comparable au cerveau.
C'est pas comparable au cerveau, mais d'un autre côté, ce que l'Admor HaZaken va te dire, c'est que ne fais pas l'erreur de penser que dans la Neshama, dès le départ, il y a 248 factions, 248 canaux. Non, c'est faux. Shelfizé, parce que si on disait ça, Nimtza, on aurait dit, en bas de la page 388, Atzmuta u Mahuta Metsuyar Betsuyur Gashmi. Si on disait que la Neshama, initialement, se séparer en 248 canaux correspondant aux 248 expressions de l'âme, du corps, ça voudrait dire que la Neshama, Metsuyar Beguf Gashmi, a une structure similaire à celle du corps. C'est-à-dire que c'est une structure matérielle. Chas Veshalom de dire comme ça. De dire que la Neshama est une structure. La Neshama n'a pas de structure. La Neshama est au-delà de tout. Et là seulement.
Comme les atomes.
Kula, toute la Neshama est Tzemechad. Toute la Neshama est une seule essence. Premièrement. Deuxièmement, Ruhani. Cette entité, la Neshama, est spirituelle. Pashut. Et spirituelle, simple. Ça veut dire que ce n'est pas un élément composé. La Neshama n'est pas un élément composé de 248 facultés. La Neshama est unique, spirituelle, simple. Pas composé, simple. Pashut ou Mufshat Mikol Siur Gashmi. Dépourvu de tout trait, de toute expression matérielle. Ou Mibrinat Vegeder Makom ou Mida ou Vul Gashmi. La Neshama est dépourvue de tout trait matériel, toute définition d'espace, de mesure, de limitation physique, tout, rien. La Neshama n'a pas ça. Mitzad Mahuta Ve'atzmuta. Par rapport à l'essence de la Neshama par rapport à son essence est dépourvue de toutes ses facultés. Ve'lo Shayar Be'mahuta Ve'atzmuta Lomar She'hu Be'mochin She'barosh Etan Be'reglaim. On ne peut pas dire par rapport à l'essence de la Neshama que la Neshama se trouverait dans l'intellect plus que dans la tête. Ça veut dire, c'est très important ce qu'on est en train de dire ici. C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure. Tout à l'heure, au début du cours, je vous ai posé une question. Je vous ai dit, c'est quoi la Neshama? Où est la Neshama? Certains m'ont répondu, elle est dans la tête. J'ai dit, c'est faux. Parce que si tu dis que la Neshama est dans la tête, ça voudrait dire que la Neshama, c'est de l'intellect. Or, c'est faux de définir la Neshama comme l'intellect. La Neshama, c'est pas l'intellect. Alors, qu'est-ce qu'elle fait dans la tête? Vous me suivez? C'est pas de la philo, vous inquiétez pas, on va développer. Hein? Je reprends. On essaye de comprendre ce soir. Ok? On essaye de comprendre quelque chose de très simple. Qu'est-ce que la Neshama? Qu'est-ce que mon âme? C'est quoi mon âme?
C'est pas simple parce qu'on
apprend. Alors, il y a des gens qui vont te dire. Attendez, je vais expliquer, je vais expliquer les erreurs d'abord. Il y a des gens qui vont te dire la Neshama c'est le cœur. La Neshama c'est les sentiments. C'est faux. La Neshama est au-delà des sentiments. Et des gens qui vont te dire la Neshama c'est l'intellect. C'est faux. La Neshama c'est pas l'intellect. C'est au-delà de l'intellect. La Neshama est dépourvue de toute limitation physique. Tu peux même pas la définir, elle est spirituelle. Seulement, cette même Neshama qui initialement est dépourvue de toute définition matérielle et physique, cette même Neshama, elle va décider de prendre comme carte générale la tête. Et après, elle va irriguer tous les membres du corps. C'est pas parce que la Neshama elle a différentes factions, elle va irriguer. Et en irriguant les différentes parties du corps, on aura des expressions comme la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Ok ?
C'est la Neshama qui irrigue la tête et la tête qui irrigue le corps, ou c'est la Neshama qui irrigue tout le corps, indépendamment de la tête et du feu ? C'est ça la question.
C'est un très bon point ce que tu dis. Je vais aller un peu plus loin. Je vais aller un peu plus loin et je vais vous embêter un peu. D'accord ? Regardez. En fait, on ne peut pas comparer ça seulement à du courant. Pourquoi? Parce que le courant est là pour donner du courant, c'est tout. Mais là, qu'est-ce qui fait que mon œil... Attendez, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui fait que mon œil voit? Non, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui fait que mon œil voit? On ne peut pas dire que c'est simplement un membre. Parce que ce membre-là, il est présent même chez un mort.
Mais il est éteint.
C'est pas si simple, il est pas éteint. Le corps existe toujours là, il est toujours là.
Il manque une âme.
Il est mort.
Attendez, je vais développer. Ça veut dire que si, au final, la Neshama permet à mon œil de voir, ça veut dire que la capacité de voir se trouve dans mon Neshama. Ah, pourtant tu m'as dit que la Neshama est dépourvue de toute limitation et dépourvue de toute définition. Ok. Ça veut dire qu'initialement, elle n'a aucune expression. Mais lorsqu'après tu prends l'énergie de la Neshama et tu vas développer ça, qu'est-ce qu'il va faire l'œil? L'œil, mon œil physique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'énergie de la Neshama et il va prouver que dans cette énergie, il y avait la capacité de voir. Donc là, c'est très fort ce qu'on est en train de dire. J'ai pas d'exemple avec la centrale. C'est pas un exemple la centrale.
Non, mais en plus pour l'exemple que tu cites pour la vue, un capteur ou une cellule photoélectrique ou ce que tu veux, elle va aussi analyser quelque chose qui
n'a rien à voir. Oui.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas lié qu'à ça. C'est pas lié mécanique.
Ça. C'est pas seulement une histoire mécanique. Voilà. Ça veut dire, ne faisons pas l'erreur de dire que la Neshama est simplement une prise de courant.
C'est ça.
Je veux dire, il y a un membre, il est là, tu mets le courant, ça marche. Tu débranches le courant, ça marche plus. C'est plus que ça. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dans ma Neshama, il y a la capacité de voir. Mais la Neshama est tellement spirituelle que c'est abstrait, donc cette capacité de voir ne s'exprime pas. Qu'est-ce qui fait mon œil? Mon œil arrive à prendre l'énergie de ma Neshama et d'extraire de cette énergie la capacité de voir qui était toujours en elle, mais qui était abstraite. Ah, c'est déjà autre chose, là. Donc là, on parle plus de courant, là, on parle de chimie, on parle de physique, c'est autre chose. Ça veut dire qu'apparemment, chaque membre a une faculté de faire ressortir une énergie qui était dans la Neshama, mais que de base, elle est invisible dans la Neshama. Pourquoi? Parce que la Neshama était abstraite. Mais en vérité, la capacité de voir était dans la Neshama. Alors ça, pourquoi je vous amène ça? Pourquoi je vous embête maintenant avec tout ça? C'est pas pour vous embêter. C'est pour vous montrer comment, en vérité, quand on analyse la Neshama, on voit que c'est exactement ce qui se passe avec Akadosh Baruch Hu. D'un côté, quand on analyse la Neshama au début, on dit la Neshama, elle est abstraite. La Neshama, tu ne peux pas la définir. Elle est au-delà de toute définition. Mais d'un autre côté, lorsque cette énergie de la Neshama va descendre dans le corps et va rentrer dans mon œil, le membre de mon œil va prouver qu'en vérité, dans l'énergie de la Neshama, il y avait la capacité de voir. Et d'où vient cette énergie? De la Neshama. Donc là, on va essayer de faire dans la suite. Va essayer de retrouver la même chose par rapport à Kadosh Baruch Hu. Essayer de comprendre comment ça fonctionne. Okay. Comment, si Dieu se trouve partout, pourquoi on passer par le Beth Amigdash? Oui?
Qu'est-ce qui fait que mon âme reste toujours collée à mon corps, à l'intérieur? Comme un aimant. Un aimant, tu prends une matière.
Ça, c'est une décision de Dieu.
D'accord. Bah ouais.
Non, Dieu il leur donne à la Neshama, il lui dit, toi, tu resteras dans ce corps.
Bah ouais.
Après, Neshama reste dans le corps.
Un effet quand même.
Bien sûr qu'un effet.
Pour que ça puisse coller ensemble. Question.
Pas seulement un effet. Hein.
Il y a des matières qui ne veulent pas coller ensemble.
Non, il y a certaines âmes qui se sont
prendre de l'eau et du papier, corps. Ça ne colle pas ensemble. Hein.
C'est un miracle.
Oui, j'ai bien compris.
Vous expliquez pourquoi c'est un miracle. Imaginez que vous prenez dans la même pièce, vous mettez deux personnes. Une personne qui est complètement matérialiste, et une personne qui est complètement abstraite spirituelle. Vous les mettez dans la même pièce, vous les enfermez. Vous les débrouillez-vous maintenant pendant 120 ans.
Ils vont devenir fous.
C'est la guerre, c'est le feu.
Ils vont devenir fous.
Bah dites-vous que ce combat, c'est le combat qui se passe maintenant et jusqu'à 120 ans dans votre corps, à l'intérieur de vous. Vous avez votre corps qui vous tire vers le bas et votre âme qui essaie de vous tirer vers le haut.
Ouais.
Qui gagnera? C'est la guerre.
C'est un sacré programme.
Voilà, pour répondre à votre question.
Non, je
donc, non mais, là on va beaucoup
non,
plus...
Non mais, c'est quoi ce programme?
Le problème, c'est que là, l'Admorazaken, il nous pousse beaucoup plus loin.
Ah, mais...
Jusqu'à présent, on avait une séparation qui était assez simple. Le spirituel, c'est la Neshama, le matériel, c'est le corps.
Oui.
L'Admorazaken te dit non. Il dit l'énergie du corps, qui donne l'énergie au corps?
C'est
l'âme aussi. Donc le corps, il transforme le spirituel en matériel. Et il prouve que dans la Neshama, il y avait déjà ses facultés. Seulement, ses facultés étaient abstraites. Et c'était brut, et c'était pas développé. Le corps ne fait que développer des énergies qui existaient déjà.
Même dans le matériel, il y a
et c'est pour ça que je disais, parfois, vous avez une personne qui a un membre qui fonctionne parfaitement, il a un œil qui fonctionne parfaitement, et il voit pas, Chaz V'Shalom. Pourquoi il voit pas?
Donc on pourrait...
Pourquoi il ne voit pas?
Parce que
quel est le problème technique? D'accord? Parce que dans sa Neshama, il n'y a pas la faculté de voir.
Notre Neshama, elle a du corps.
Même si le corps
la
Neshama n'a pas. Donc la Neshama, elle ne peut pas développer ce qui n'existe pas.
C'est pas qu'elle a du corps, mais elle crée un corps qui va l'accueillir.
Non, la Neshama ne crée pas le corps.
Du corps, quand même.
Non. C'est le corps qui reprend. Non, c'est pas comme ça que Dieu fait les choses. C'est le corps qui prend l'énergie de la Neshama et qui l'exprime. Alors, on va avancer un petit peu. Veiné.
De là.
Alam Shachat. Oui, on commence à voir un peu plus clair, j'espère en tout cas.
C'est
Tu commences à comprendre que c'est complexe.
Non, mais, c'est ça. Non, mais ça donne du corps à ce que tu dis.
Ça donne du corps. Pas mal.
Hein, bon, hein? Le golem, il avait une échama.
Hein?
Ça développe l'esprit, ce qu'on dit.
Il avait un corps, surtout. Non, c'est pas une chambre comme ça.
Non, c'est... Bien sûr, il bougeait, il posait le golem, parce qu'il avait une chambre.
Le golem.
Il y a le code de la
Neshama. Oui.
L'ensemble de la vie, elle est régie dans la Neshama. Si dans le code de la Neshama, que Akadosh Baruch Hu t'a donné, ta main, elle fonctionne bien.
C'est pas seulement un code. C'est pas seulement un code, c'est une énergie. Voilà. Elle était là, voilà.
Elle y était. Moi, je dis le code pour le corps.
Voilà. Oui. Le rôle du corps, c'est d'exploiter une énergie existante.
D'exploiter le flux qui le...
Voilà. D'exploiter le flux. Et de montrer comment, dans ce flux, il y avait une énergie de voir.
Oh, d'accord.
D'accord?
Il a trouvé le code, Mazal Tov.
Exactement.
Il a trouvé le code.
Eh, ça marche pas. Aussi. Maintenant, je suis en bas de la page 300, non, en bas de la page 390.
Ah,
Gabo. J'essaie de comme ça, je saute pas, hein, enfin, vous inquiétez pas. Après, il y a des commentaires qu'on pourrait voir après, si vous voulez. J'essaie déjà de vous donner le fil du cours. Page 390.
Le fil conducteur.
Là, on a dit. Veine. Alam Shachat, Kol Atarek, Vechayut, Me'elem, Aneshama, Laguf, Lachayut, ou. Concernant le flux de tous les 613 types de facultés et de forces vitales qui s'expriment de l'Aneshama vers le corps pour le faire vivre, aller à Amrou. C'est sur ça que les Chachamim ont dit chez Ikar Mishkan avait Ashrat, Hashalam Shach avait Gulouzé ou Kulomochet Shbarosh. Pourquoi les Chachamim ont dit que le quartier général de la Neshama est dans la tête? Pas parce que la Neshama est intellectuelle. Parce que à partir de quel moment commence ce processus de matérialisation de la Neshama, il commence dans le cerveau. En vérité, la Neshama en soi est plus haute que toute définition. Elle n'est pas liée plus à votre cerveau qu'à votre doigt de pied. Seulement, dans quel organe de votre corps commence la matérialisation de la Neshama pour la rendre concrète? C'est dans votre cerveau. Et après, du cerveau, on va matérialiser progressivement, on va envoyer aux yeux, à la main, aux têtes, aux pieds, etc.
Et qui c'est qui envoie aux yeux, alors?
D'accord. Alors, c'est la Neshama qui passe par le cerveau, et le cerveau commence déjà à lui apprendre à disséquer tout ça, disséquer cette énergie de l'aneshama, et après il envoie aux membres. Donc en fait, si on peut résumer, c'est très simple. C'est pas compliqué, c'est très simple. Vous avez l'énergie de l'aneshama de base qui est abstraite, qui se trouve partout dans votre corps, partout, partout. Après, cette énergie de l'aneshama, direction votre tête. Dans votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait votre cerveau? Il prend l'énergie, chaque seconde, maintenant, quand je vous parle, il est en train de le faire maintenant, il prend l'énergie de l'aneshama, et il va la disséquer, il va la démonter. Il va dire, bon, là, dans cette partie de la Neshama, il y a la capacité de voir. Alors, on voit ça à l'œil. Là, il y a la capacité de lui. Alors, tu m'envoies ça aux oreilles. Là, il y a la capacité de marcher. Là, tu t'envoies ça aux pieds. Ça, c'est le rôle du cerveau. Le rôle du cerveau, si vous voulez, c'est comme une machine qui est là, qui est capable de te prendre, de t'extraire l'énergie qui se trouve dans la Neshama. Donc, maintenant. Celui qui ne connaît pas, qu'est-ce qu'il va dire? Alors, maintenant, on a trois types de personnes. Et les trois réponses sont bonnes. Si je vous pose la question, où est la Neshama? Tu as celui qui va répondre, la Neshama, elle est dans mes yeux. La Neshama, elle est dans ma main. La preuve, je vois. La preuve, je touche. C'est une bonne réponse. Sauf que là, c'est la réponse finale. C'est une fois que la Neshama est descendue déjà dans le monde. Après, t'as un autre qui me dira, la Neshama est dans ma tête. C'est une bonne réponse. Mais ça, ce n'est que l'étape numéro 2. C'est lorsque la Neshama commence à aller dans le cerveau pour être disséquée, pour être coupée, pour être, etc., pour être dispatchée partout. Et il y a l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, c'est la Neshama, avant même qu'elle passe par le cerveau, elle est abstraite, elle est indéfinie, elle se trouve partout.
Donc on peut dire que c'est une partie d'Akadosh Baruch
Hu. Bien sûr, on a étape 1, étape 2, étape 3. Étape 1, elle est partout. Étape 2, elle passe par le cerveau, et le cerveau, il prend la Neshama et il va la décomposer. D'accord? L'énergie de la Neshama va la décomposer. Étape 3, il dispatche dans chaque membre, et chaque membre va prendre l'énergie que lui a envoyé le cerveau, et il la développe.
Mais elle est illimitée dans un corps limité.
Donc le rôle du cerveau est un rôle très important. Le rôle du cerveau, c'est de prendre une énergie illimitée, et de la transformer en énergie limitée.
Limitée.
D'où, c'est la raison pour laquelle tout le monde dit que le quartier général, c'est quoi? C'est le cerveau. Ce qui est faux en vérité, c'est faux et c'est vrai. Parce que d'un côté, la Neshama est partout, après elle passe par le cerveau, et après elle arrive dans chaque membre. Ok. Alors, on va continuer un peu dans les mots. Velachen, c'est pour cela. page 391. Felachen, c'est pour cela. Hem mekabelim trila. C'est pour ça que le cerveau reçoit en premier. D'abord, le cerveau reçoit en priorité l'énergie qui lui correspond. Parce que le cerveau lui-même, pour qu'il fonctionne, il a besoin d'une neshama. Donc d'abord, la neshama, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle envoie au cerveau ce que lui a besoin. Elle lui envoie la capacité de réfléchir. Donc, Shehem, Chorma, Bina, Ta'at, Vekoach, Amarshava. Mais l'os de Bilvan, et la gamme Klalout, Kolam, Shachot, Achayut, Shara, Evarim, Gam, Ken, Nikloulam, Nouveshem, Vachin, Shubarosh. Donc là, c'est intéressant, c'est un peu fin, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Oui. En fait, c'est très simple. Il te dit, la neshama, voilà comment elle fonctionne. Votre neshama, maintenant, à l'instant, je vous parle. D'abord, elle envoie l'énergie à votre cerveau. Pour que votre cerveau soit capable de réfléchir. En parallèle, elle envoie une deuxième énergie à votre cerveau, qui est l'énergie de tous les autres membres. Elle lui dit, pas de chou, elle lui dit, tiens, je te donne tout. D'abord, je te donne la force de réfléchir. Et après, je te donne tout le reste. Et là, le cerveau, il prend l'énergie, ça à l'œil, ça au pied, ça à l'oreille, ça il dispatche. Et après chaque membre récupère ça et il exprime encore plus. Maintenant, on va essayer de comprendre, comment on applique tout ça par rapport à la neshama, par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ok.
Il y a un facteur qu'on oublie aussi, c'est tout ce qu'on respire, tout ce qui est autour. S'il n'y a pas d'oxygène, tout ce qui est autour de nous, tout ça.
Oui, mais avec quoi vous... Non, mais attendez, avec quoi vous respirez? Non, attendez, avec quoi vous respirez?
Ça, c'est, à mon avis, c'est lié. On peut pas rester avec un circuit fermé.
Oui, mais la respiration, c'est déjà un acte physique.
Mais s'il n'y a pas d'oxygène, on ne peut pas...
Mais qu'est-ce qui fait que vous respirez?
Ça veut dire que ce qui est...
Attendez, répondez à ma question.
Il y a un composé avec...
Répondez à ma question. Qu'est-ce qui fait que vous respirez?
Comment?
Bien sûr, vous avez une pompe qui fonctionne. Oui. Donc, cette pompe, il faut une énergie pour fonctionner.
D'accord, c'est interne de mon corps, c'est-à-dire c'est mon âme.
Comment elle fonctionne cette pompe?
On distribue.
Pourquoi elle bouge cette pompe? Qu'est-ce qui la fait bouger?
Il faut un élément extérieur pour pouvoir continuer.
Moi, tu me demandes par exemple comment on fait tourner un iPhone. Je te réponds. J'ai un iPhone, il y a de l'énergie électrique, ça je peux t'expliquer. Tu me poses la question, pourquoi mon cœur fonctionne? Bah, au Hachem, il fonctionne. Pourquoi il fonctionne? Je suis incapable de te répondre. Tu lui donnes des chips, il fonctionne? Pourquoi mon iPhone, je lui donne des chips, il fonctionne?
On est d'accord, mais.
Attendez, non.
Dans l'eau, tu respires pas.
Hein?
Déjà, dans l'eau.
Je comprends.
Tu respires pas.
Bien sûr, ça, c'est un problème technique. Ma question est la suivante. Qui a fait que l'air fait fonctionner le cœur?
Bah, c'est Dieu.
Je comprends. Donc, ça veut dire que, ça c'est, donc, là, on a déjà un autre système. C'est que l'aneshama donne de l'énergie au poumon pour faire en sorte que si le poumon respire, il pourra rester en vie. Le corps restera en vie. Ma question n'est pas comment ça fonctionne physiquement. Physiquement, le cœur, c'est une pompe. C'est une pompe,
c'est
le cœur.
C'est fascinant, hein,
C'est fascinant. Mais le cœur, ça reste une pompe. Une pompe élaborée, mais ça reste une pompe. Ma question n'est pas, ma question n'est pas comment la pompe fonctionne. Je sais comment la pompe fonctionne. La pompe fonctionne. Tu vas à un cardiologue, il t'explique. Ma question n'est pas pourquoi, ma question n'est pas comment elle fonctionne. Ma question est pourquoi elle fonctionne. Qu'est-ce qui l'a fait fonctionner? Là, t'es l'énergie de la neshama. Qu'est-ce qui fait que le cœur, à un moment, arrête de battre?
HM, il est plus là.
Tu comprends? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y avait plus d'air. Il y avait de l'air. Pourquoi il a arrêté de respirer?
Ça veut dire dans la neshama, il y a un contre-argument.
Bien sûr. Non, ça veut dire, mais bien sûr, ça veut dire qu'à un moment, l'aneshama arrête de vivifier le cœur.
Non, je suis pas d'accord.
Bien sûr, non, mais c'est ça.
Oui, mais là,
Lorsque l'aneshama, Dieu préserve, arrête de vivifier le cœur, ce qui se passe, c'est que le cœur ne fonctionne plus. Et même s'il y a de l'oxygène, et même s'il y a du mitri, il ne fonctionne plus. C'est tout.
C'est-à-dire que quand l'enfant est né, il a une neshama à l'intérieur de laquelle l'énergie qui va être dédiée, par exemple, à son cœur, va lui dire, bah, ça expire.
Maintenant, respire, voilà. La neshama du bébé n'est pas présente dans son corps quand il est dans le ventre de sa mère. Et dès qu'il sort du ventre de sa mère, à ce moment-là, la neshama commence à rentrer dans son corps, elle commence à vivifier son corps.
C'est-à-dire que quand il est là, il n'y a pas d'air.
Et c'est pour ça que le gosse pleure, parce que c'est le premier fois qu'il respire, c'est le premier moyen.
Il n'y a pas d'air dans le
corps. D'après la Gemara, tant que le bébé est dans le ventre de sa mère, c'est un organe de sa mère.
Ah bon,
ça veut dire qu'il vit, le gosse vit par la neshama de sa mère.
On dit que 40 jours avant la création de l'enfant, c'est l'âme qui plane au-dessus.
Parce qu'il a sa neshama propre, qui est là, mais qui n'est pas en fonction encore, mais qui est là. Elle est là, sa neshama.
On dit qu'il plane au-dessus.
Oui, elle est autour, mais elle est là. Elle est là, la neshama. Mais elle est autour de lui, mais c'est pas elle qui le vivifie. Non, c'est pas elle qui le vivifie. Il y a une âme qui est là, mais qui n'est pas encore... La neshama va commencer à s'exprimer surtout quand le bébé sort du ventre de sa mère. Il est déjà là avant. Mais surtout quand le bébé... Avant, elle l'enveloppe. Le gosse réagit par rapport à ce qu'il entoure.
Il y a 100 ans, on ne savait pas comment bouger un enfant. Aujourd'hui, on peut le voir avec une échographie. Donc l'enfant bouge, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Il y a une énergie à l'intérieur.
Bien sûr qu'il y a une énergie.
Alors, c'est pas l'âme.
On a dit que c'est l'âme qui faisait de l'enfant. Il a son âme qui est autour de lui. Ah, et à part ça, non, elle n'est pas dans lui, c'est le Neshama. Elle n'est pas dans lui.
Ce qui voudrait dire, alors, on pourrait vivre sans un âme?
Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il a une Neshama autour de lui.
Côté,
non, mais il vit par sa mère. C'est un, le bébé dans le ventre de sa mère, c'est un organe de sa mère.
Il est lié par l'oxygène.
Bien sûr. Non, c'est pas seulement l'oxygène. C'est que la Neshama de la maman vivifie aussi son fils.
Bah ouais.
On dit que le bébé partout, il apprend toute la Torah dans le ventre de sa mère.
Oui. Mais ah, il apprend toute la Torah dans le ventre de sa mère, il n'y a pas de question. Mais qu'est-ce qu'il vivifie, ce gosse? Par quoi il vit?
Il vit par le cordon ouais.
Il vit par sa mère.
Oui.
Avec une Neshama qui l'enveloppe et sa mère qui le fait vivre. C'est tout. C'est pour ça que, vous savez, c'est pour ça qu'alachiquement, lorsqu'un bébé met en danger la vie de sa mère, qu'est-ce qu'on fait?
On sauve la mère.
On sauve la mère. Pourquoi? Parce qu'alachiquement, le bébé est comparé à un organe de sa mère. Maintenant, même si c'est un organe qu'on n'a pas le droit de tuer, parce que l'avortement, c'est très grave, c'est, on enlève une vie grâce à la de quelqu'un. Mais d'un autre côté, le bébé est considéré comme s'il poursuivait sa mère et qu'il voulait la tuer. Non. Il y a une halakha qui dit que quelqu'un qui poursuit, on doit tuer celui qui poursuit.
Oui, mais on dit aussi dans le droit, à partir d'un certain nombre de jours d'existence de bébé, c'est déjà
90 jours.
C'est déjà une personne considérée comme
3 mois.
Ouais, 12 semaines. Alors,
juridiquement, quoi.
Bien sûr. Bon. Alors, où on en est, David?
Page 380.
Hein, David?
Oui.
Où on en est?
Des longues erreurs.
Un résumé, David.
En Bretagne, c'est là, on est après 51 chapitres du Tania, là, il faut que ça décolle. Ok. Alors on va passer maintenant. Page 392. Ouais. Je vous explique à l'oral, vous inquiétez pas, on n'a pas sauté. Vekach ha-mamash al derech mashal. En bas de la page 392. Il en est de même al derech mashal, pour prendre une image. Ein sof baruch hu, l'infini divin, Memale kol almin le'achayotam. Rappelez-vous ce qu'on a dit, les trois étapes. Étape 1, la Neshama est partout. Étape 2, centralisation dans le quartier général, le cerveau, qui va tout disséquer, tout démonter.
C'est quoi le cerveau du monde, là?
Attendez, j'arrive, attendez, non, Hacham est partout. Il nous faut trois étapes, maintenant. Et là, vous allez voir, étape 1, 2, 3, magnifique. L'infini divin emplit tous les mondes, les chayotam, pour leur donner vie. Uvechol olam, et dans chaque monde, de la même façon que dans mon corps, il y a plusieurs membres, de la même façon, dans chaque monde, yesh bruim l'enket vetachlit, existent des créatures sans limite ni fin. Ribor evavot mine madrigot, malachim ou neshamot, des myriades de niveaux d'anges et d'âmes, etc. Vechen, ribouya olamot, en lo katsugvul. Et de la même façon, les mondes spirituels, multitudes, sans fin, sans limite. Gavoa al gavoa, l'un au-dessus de l'autre, sans fin. Mais, veine, mahuto vatsmuto shenetsov aruchu. Si je vous pose la question maintenant, où se trouve l'essence de Dieu? Il y a plein de mondes ici. Il y a des mondes spirituels, t'as le Gan Eden, t'as le monde futur, t'as ci, t'as ça, t'as un autre monde. Si je vous pose la question, où se trouve l'essence de Dieu?
Partout.
Ça équivaut à la même question si je pose, où est la Neshama? La Neshama est partout. Donc Dieu est partout. Dieu n'est pas plus présent au Gan Eden qu'il n'est présent ici. Il est présent, la même chose partout. Ça, c'est l'étape 1. Ça, c'est l'étape 1. Le Ein Sof. L'infini divin, l'essence de la Neshama est présente partout, exactement de la même façon que l'essence divine est présente partout, donc partout dans le monde, sans différence, sans aucune différence.
Donc on va parler après.
Ukmo shekatu betikunim, comme il est écrit dans Tikunim, c'est Tikuné Zohar, de Ihu, que lui, Akadosh Baruch Hu, donc on est en bas de la, voilà, 393, de Ihu stimu de chol stimin, Akadosh Baruch Hu est caché de tous les cachés. Ça veut dire que, ne crois pas qu'en haut tu vas mieux le comprendre, Akadosh Baruch Hu, il est partout impénétrable. Ça, c'est étape 1. Il est partout. Il est partout, 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 partout. Pirou, ça veut dire. Da filou balmin stimin dilarela. Même dans les mondes supérieurs et cachés d'en haut. Ou satum venelam betoham. qui est moche au sein de la métartonime. Ne croyez pas. Si je vous pose la question ici, est-ce que Dieu est pénétrable dans ce monde? Impénétrable. Vous croyez que Dieu est un peu plus pénétrable en haut, dans le Gan Eden?
Ça veut dire pénétrable.
Ça veut dire on peut plus le comprendre? Impénétrable.
Si c'est pas compréhensible.
Incompréhensible, impénétrable. Et il est autant incompréhensible en haut qu'il l'est en bas. Même chose, kiff kiff.
Pourquoi faire?
Pourquoi? Parce qu'on est dans l'étape 1. Dans l'étape 1, c'est comme la question, je dis où est la Neshama? Elle est partout. Elle n'est pas plus présente dans le doigt de pied ou moins présente dans le doigt de pied que dans le cerveau. Elle est partout. Ça, c'est l'étape 1. Et c'est la vérité. C'est que l'essence de la Neshama est partout. De la même façon, l'essence divine se trouve où? Elle est partout. Sans aucune différence. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Vers Evdel.
Donc, chez... différence.
Alors, vers... Je suis à la page 394. Ve'ahevdel sheben olamot elyonim vetartonim. La différence qu'il y a entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, ou mitzat amshachat achayut, asher en savaruchu mamshichu meir biprinat gilui me'elem. Maintenant, la différence qu'il y a entre les mondes inférieurs et les mondes supérieurs, comme on va expliquer tout de suite, c'est que dans les mondes supérieurs, Dieu va plus se dévoiler que dans le monde inférieur. Mais en vérité, il est partout. Exactement le même. Son essence est présente partout. Chez Zé ou Echad Matamim, il va ouvrir une parenthèse intéressante. Le crochet, là, je suis au crochet, en bas. Chez Zé ou Echad Matamim, ça c'est une des raisons pour lesquelles. C'est la raison pour laquelle dans la Kabbalah, chaque fois qu'on veut parler d'énergie divine, on parle de
lumière.
Quel rapport avec la lumière? Vous croyez que Dieu c'est une lumière? C'est une lumière.
Ouais,
c'est un jeu de mots.
Physiquement, c'est pas
après, on compare une lumière. Et partout dans la Kabbalah, dès qu'on va parler de Or and Sof, la lumière infinie, la lumière, pourquoi tu parles de lumière? Quel rapport à la lumière? D'accord? Alors il dit comme ça, prends pas de lumière. Il dit, pourquoi c'est comparé à la lumière? C'est comparé à la lumière parce que la lumière est présente partout. La différence qu'il y a entre l'énergie et la lumière, c'est que quand tu allumes la lumière qui est ici, elle se pose pas la question, attends, qui je vais éclairer là? Je vais éclairer le tanya ou je vais éclairer la bouteille ou je vais éclairer l'extrêmement qui est là? La lumière, elle dit, moi j'allume, j'éclaire tout le monde, même la souris qui va se balader là. La lumière, elle allume tout le monde, elle éclaire tout le monde. Est-ce que la lumière se pose la question, j'éclaire qui? Non. Elle éclaire tout le monde. Est-ce qu'on peut dire que la lumière, qui est ici éclaire plus le livre?
Pourtant, lui, il est
d'accord
posé comme moi.
Attendez, écoutez ma question. Vous êtes d'accord avec moi que le livre que j'ai ici est plus kadosh que ce cracker?
Oui.
Pourtant, est-ce que la lumière qui est ici éclaire plus le livre que la lumière? Éclaire plus le livre que le cracker?
Pareil.
C'est la lumière. C'est l'essence de la lumière, elle éclaire, c'est terminé. C'est pour ça que Dieu est comparé à la lumière. Parce que ça, c'est l'étape 1. L'étape 1 dans laquelle on te dit, Dieu, il éclaire. Dieu, il envoie l'énergie. Il est partout présent de la même façon. Étape 1. Partout présent de la même façon. Ok. Donc, les achayot, page 395. Les achayot, à olamot, v'aberouim, shebaem. Dieu est présent partout de la même façon. Pour donner vie au monde et aux créatures qui s'y trouvent. Sha'elamot, elyonim, mekablim, mirinat, gilouk, c'est sauf que, les mondes supérieurs, ils arrivent à prendre, capter plus d'énergie que les mondes inférieurs. C'est comme si, je dirais dans la lumière, qu'il y en a un qui arrive à refléter la lumière. Il a travaillé pour bien refléter. Mais en vérité, il est présent partout de la même façon. Ok. Je tourne la page. On prend la page 396. Au milieu de la page. Vecholkar gavru ve'atzmu atzmu ve'gavru alevushim. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, c'est une énergie divine, une énergie illimitée, etc. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Après, il fait ce qu'on appelle le tzimtzum. C'est la contraction. Ça veut dire il met un vêtement sur un vêtement sur un vêtement sur un vêtement. Il contracte. Et il contracte tellement il se cache. Ad asher bara bo olamaze achumri vakashmi mamash. Au point que Dieu créa ce monde qui est corporel et physique vraiment. Umehaveu et il va le créer et il va le donner vie. Bechayut veor par une énergie, une vitalité et une lumière. Hashem shur meirlo or ameloubash umustar umechusu umustar betoch alevushim arabim veatzumim amalimu mastirim arvachayut ad she'en nigle nirev nigle shum arvachayut. Alors regardez ce qu'il fait Hashem. De base, Hashem est présent partout. Étape 1. Mais après, qu'est-ce qu'il fait avec Kadosh Baruch Hu pour convertir le spirituel en matériel? Qu'est-ce qu'il fait avec Kadosh Baruch Hu? Il va contracter, se cacher, tout en étant là. Au point qu'à la fin, extérieurement, de prime abord, quand tu vois, tu vois un objet matériel mort, sans vie. Mais en vérité, il est là. Tu vois ma main. Vous voyez ma main là? Hop. Vous voyez ma main? Est-ce que vous voyez mon âme ici?
Non.
Pourtant, c'est mon âme qui vit cette main. Mais est-ce que vous voyez mon âme? Non. Parce que qu'est-ce qu'a fait mon âme? Mon âme, elle s'est contractée au point que dès qu'elle arrive dans le produit fini, on voit rien. Il n'y a plus rien. Elle est là, mais tu vois plus rien.
Ça veut dire que s'il ne se contractait pas.
D'accord?
S'il n'y avait pas la contraction.
S'il ne se contractait pas, ma main aurait brûlé.
Elle aurait brûlé?
Bien sûr, elle aurait pas pu tenir.
Pourquoi?
Parce que, comment tu peux convertir du spirituel au matériel? C'est pas possible. Pour convertir du spirituel au matériel, que le matériel est une forme de quasi-indépendance ou pseudo-indépendance, on est obligé de se cacher. Maintenant, je vous donne le preview de la semaine prochaine. Maintenant qu'on a compris qu'initialement, Dieu est comme l'étape 1. C'est quoi l'étape 1, David?
L'âme, elle est pas.
Partout. Dieu, il est partout. Il n'est pas plus présent en haut qu'en bas ou plus présent en bas qu'en haut. Il est présent partout. Après, il nous manque l'étape 2 et l'étape 3. L'étape 2, c'est quoi? C'est le QG. C'est quoi le QG?
Le
bêta-midage.
Donc quand tu auras le bêta-midage...
Attendez.
Quand tu auras le bêta-midage...
Ça,
il va se dévoiler.
On va expliquer dans la suite. Chapitre 52, chapitre 53.
Il va se dévoiler.
Bien sûr. Parce que le problème qu'on a, donc qu'est-ce que nous doit expliquer? On doit expliquer longuement, et ça, il y a beaucoup à dire dessus. Ça, j'ai accéléré parce que je vais arriver à la suite. Ouais. On a l'étape 2 et l'étape 3. L'étape 2, c'est Beth Amikdash, quartier général, cerveau du monde, qui prend l'énergie divine, qui la dissèque, qui la démonte.
Dispatch.
Et après, du Beth Amikdash, la lumière va aller partout dans le monde. Donc,
diffusion.
Si tu n'as pas le Beth Amikdash,
boomerang.
Tu restes bloqué à l'étape 1.
Donc, tu dis que...
Toi, tu me dis, je comprends pas. Quelle est la question qu'on a posée au début du cours? Tu me dis, je comprends pas.
Est-ce qu'on a besoin?
Je peux pas être un juif religieux à Paris, à Jérusalem, sans Beth Amikdash. Dieu est partout.
Oui.
Bien sûr, Dieu est partout. Mon but, c'est pas seulement de dire que Dieu est partout. Comme j'aurais dit que la Neshama se trouve partout. Mon but, c'est que les membres fonctionnent. Que l'œil voit. Que l'oreille entend. Que cette parcelle dans le monde dans laquelle je me trouve vit. Qu'elle vive la parole de Dieu. Pour ça, il y a une seule adresse, une seule possibilité. Le Beth Amikdash. Maintenant, ça ne veut pas dire que je dois être au Beth Amikdash. Ça veut dire qu'il doit y avoir un Beth Amikdash. C'est comme le membre. Par exemple, j'ai mon doigt de pied qui va marcher. Mon cerveau, c'est pas mon doigt de pied. Mais si mon doigt de pied fonctionne, Baruch HaShem, c'est que mon cerveau fonctionne. Si le cerveau ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Même si concrètement la Neshama est présente partout dans le doigt de pied ne fonctionne pas.
Oui, mais le monde, il a bien vécu avant, depuis la création jusqu'à la édification.
C'est une très bonne question ce que tu poses. Voilà, une très bonne question. En d'autres termes, ta question, c'est comment on a fait avant le Beth Amikdash?
Voilà. Comment on fait après?
Et pourquoi maintenant? Et
ben,
c'est ce qu'on va expliquer.
Autant on peut.
Très bonne question. Non, mais c'est une très bonne question. Très bonne question. C'est ce qu'on va expliquer dans le chapitre 52 et 53. Surtout 53, ta question. On va répondre à cette question. On va. Je te donne un preview. Le preview, c'est que Dieu a modifié la structure du monde la première fois où le Beth Amikdash était construit. Et que dorénavant, le Beth Amikdash est incontournable. Et il est toujours présent. Et on est, seulement, quand il n'est pas construit, quand on ne le voit pas quand il n'est pas construit, automatiquement, on n'arrive pas à dévoiler les choses.
Il y a encore le réacteur. Parce que physiquement, il n'est pas présent, mais...
Il est toujours présent.
Il y a encore le cœur du réacteur.
Vas-y. Non, mais je parle du Kodesh HaKodeshim.
Oui, non,
il faut que ça soit bien clair. Il y a le Moskéthieu, ça va aussi.
Non, le Kodesh HaKodeshim n'est pas... Le Kodesh HaKodeshim n'est pas là, le Kodesh HaKodeshim. Les Luchot sont cachés. Le Kodesh HaKodeshim, c'est un endroit qui s'appelle le Saint des Saints. Cet endroit est détruit. Il reste Kadosh, mais il est détruit.
Mais là où il y a la mosquée actuellement, c'est quoi?
Je ne connais pas l'endroit spécifique, il y a plusieurs marques Kadosh, c'est pas la question. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un emplacement qui est Kadosh, qui est toujours là. Et que ça passe par cet emplacement. Puisque cet emplacement est problématique maintenant, ça veut dire qu'il est détruit, ou on se bagarre dessus, ou les autres sont là-bas avec leur dôme, etc. Donc concrètement, notre QG est malade.
Il y a un volontaire qui arrive.
Il est en dehors de cet espace.
Peu importe où il est. qu'il soit là ou qu'il soit là, il n'est pas construit. L'espace est là, mais il y a pas, on ne le sert pas autour. Donc il y a un problème. Donc le cerveau ne fonctionne pas. Si le cerveau ne fonctionne pas, même si les membres fonctionnent parfaitement, et c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit à Kadoshbaroukh? On dit à Kadoshbaroukh, écoute, à Kadoshbaroukh, nous on est là, on va peaufiner nos membres. Les membres fonctionnent parfaitement. Mais s'il n'y a pas le cerveau qui fonctionne, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on dit chez Ibané Betamikdash. Pourquoi on supplie les gens d'envoyer le Betamikdash? Parce que c'est comme une personne qui a un œil, mais que le cerveau n'envoie pas le signal. Tu n'envoies pas le signal, tu perds ton temps. Alors pourquoi je me prends la tête à construire l'œil? Parce que je me dis, comme ça le jour où il y aura le signal, ça fonctionnera. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On construit les membres, on construit partout les membres, c'est le monde entier. On construit sans qu'il y ait l'énergie. Il y a l'énergie infime. Dieu, il est partout, évidemment. Mais l'énergie n'est pas visible. Elle n'est pas visible. On ne voit pas Dieu ici. Le jour où Dieu reconstruira le Beth Amikdash, ce n'est pas qu'à Jérusalem qu'on verra la Shrina. C'est partout.
Ah oui, ça va être vide après.
C'est pas exactement comme dans le corps.
Cette fois-ci, ça ne va pas nous brûler.
Bien sûr.
C'est ça.
Bien sûr. Cette fois-ci, on aura le membre qui est là, prêt, adéquat pour recevoir l'énergie. Et là, ça fonctionne. C'est pour ça que le Beth Amikdash est un élément incontournable du judaïsme et du monde. Le monde ne tient que sur le Beth Amikdash. Étape 1, étape 2, étape 3. T'as pas l'étape 2, tu peux pas avoir l'étape 3. Oui. Bon, mais ça, je vous laisse méditer à ça, parce qu'on aura encore beaucoup de cours dessus. Je pense qu'on aura encore 2-3 cours, pas plus.
On pourrait imaginer que le Beth Amikdash existait déjà avant que nous, on sache qu'il faut en faire un. Ça veut dire qu'il existait déjà. C'est quelque chose qui était beaucoup très archaïque. Et nous, on en a hérité, mais allez construire.
Voilà.